Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast de voixpoétique.com. Je suis David, poète et voix de ce podcast. Ces capsules audio, je les diffuse sur le web afin de vous faire rentrer dans l'univers de mes poèmes en lecture libre sur le site voixpoétique.com. Partage, échange, ouverture sont les espaces que je garde pour vous dans chacune de mes poésies et je vous propose donc de rentrer aujourd'hui ensemble dans le poème « Fruits ». Nous allons explorer la crainte. La crainte liée à l'amour. Cette peur si humaine de voir s'étioler les sentiments, de perdre la fraîcheur, la sève, la vitalité des moments partagés. Il questionne l'idée de la maturation, des liens affectifs, de la transformation inévitable du temps qui passe, et de la façon dont chacun de nous s'inscrit dans ce grand cycle d'épanouissement et de déclin. C'est un poème qui, quelque part, interroge aussi notre rapport à la liberté, au désir de retenir l'autre, et à l'incapacité de réellement posséder ce qui nous est cher. Je vais vous lire d'abord ce poème, puis nous prendrons le temps d'en explorer les différentes facettes. Laissez-moi vous l'offrir dans son intégralité. J'avais peur de t'aimer. Tellement peur de ne plus avoir les faveurs de tes yeux offertes au temps meurtrier. J'avais peur que nos mots se ternissent, que la saveur de nos moments ait le goût d'un fruit devenu trop mûr et triste. Je voulais te garder. Mais au fond, je savais que tu ne pouvais être cette moitié de moi. Entière, tu aimes courir après le vent, laisser ton parfum sur des oreillers de coton et de plumes de lit que tu ne connais pas. Offrir au vent la légèreté de tes cheveux sans penser au lendemain. Te perdre sur une boule bleue que tu imagines sans fin. Quand tes yeux se fermeront et que le temps sera devenu ta dernière demeure, ne crie pas mon nom dans les méandres de l'univers. Je serai déjà là, t'attendant depuis l'éternité d'un cœur amant et sincère. Alors, les vents contraires, les parfums entêtants, les champs de fleurs sauvages, les majestueuses mers et montagnes que tu admirais tant, les matins âpres et la gravité qui t'appelle à elles sans cesse, ne seront devenus que des vieux fruits trop mûrs sur lesquels nous regarderons pousser l'arbre de notre destinée. Il s'agit pour moi d'une plongée dans une sorte de méditation amoureuse où le sentiment initial, la peur, joue un rôle central. L'écriture de ce poème est née d'une réflexion sur le temps, la transformation des sentiments et la tension entre la liberté de l'autre et le désir que nous avons parfois de retenir, de figer l'instant. Comme si nous voulions empêcher le fruit de mûrir trop vite, de tomber de l'arbre, de se corrompre. Nous voudrions garder ce moment de perfection, cette fraîcheur du désir, cette intensité originelle des regards échangés. Je sais que certaines d'entre vous ont déjà ressenti cette crainte. Aimer, c'est déjà risquer la perte. Aimer, c'est accepter le flux du temps, la métamorphose des êtres, le glissement de la passion vers une autre forme de relation, ou parfois la fin. On a peur que les mots se ternissent, que la saveur s'efface, que l'amour devienne fade comme un fruit trop avancé. C'est un motif classique, ancien, qui traverse l'ensemble de la littérature. Le temps est meurtrier, disait déjà Ronsard dans ses sonnets. Et chaque instant de beauté semble voué à se faner. Dans la première strophe, je place tout de suite cette peur au centre. J'avais peur de t'aimer. Aimer, c'est déjà s'exposer. S'exposer à l'absence, à la dégradation, au changement. Le temps est décrit comme meurtrier. Non pas pour effrayer gratuitement, mais pour rappeler que tout ce qui vit est voué à évoluer, à décliner un jour, ou à se transformer sous l'emprise du temps. Les moments savoureux, qui ont le goût de fruits gorgés de soleil, finissent par s'assombrir, se flétrir. Qu'y a-t-il de plus triste qu'un fruit trop mûr, devenu mou, brunâtre, éloigné de l'image idéale que nous avions de lui? L'amour idéal, celui que nous fantasmons souvent, serait un fruit éternellement jeune, toujours au sommet de sa saveur. Mais la réalité est tout autre. Les relations humaines mûrissent, se transforment, et parfois se gâtent. Ma peur naît de cette lucidité. Il s'agit peut-être d'une crainte universelle nous sentons la beauté de l'instant et en même temps, nous savons qu'elle est éphémère. Dans la deuxième strophe, j'admets un désir contradictoire. Je voulais te garder. Garder l'autre, le retenir, l'enfermer, dans la bulle du présent. Nous avons tous ce réflexe de propriété, cette volonté d'immobiliser ce qui nous rend heureux. Mais aussitôt, je reconnais l'impossibilité d'une telle entreprise. Je savais que tu ne pouvais être cette moitié de moi. Ce vers exprime le fait que l'autre est un être libre, entier. L'autre n'est pas une moitié qui nous complète. Ce n'est pas un complément, un organe secondaire, mais un être avec ses aspirations, ses désirs, son indépendance. L'amour doit composer avec cette altérité, cette liberté qui parfois nous échappe. Puis vient la description de cet autre. Dans la strophe suivante, je brosse le portrait d'une personne libre comme le vent, qui ne s'attache pas au lieu, qui multiplie les rencontres, les chambres inconnues, les souvenirs évanescents. Elle est entière. Elle ne sait pas se scinder en deux moitiés pour appartenir à quelqu'un. Elle est un esprit voyageur, une âme curieuse, avide d'espace et de liberté, qui sème son parfum dans l'inconnu. On entre ici dans la dimension philosophique du poème. L'amour véritable peut-il se satisfaire d'une possession, d'une fixation? N'est-il pas plus beau, plus authentique d'aimer quelqu'un dans toute son intégrité? Même si cette intégrité implique de ne pas le retenir, de le laisser filer avec le vent. Cette personne court après le vent sans penser au lendemain. Cette insouciance fascine et inquiète à la fois. Pour le poète, c'est un rappel que la vie est un voyage sur une boule bleue, la Terre, que l'on imagine sans fin, sans bord, une expérience infinie d'exploration. L'autre est un être de mouvement, et aimer, c'est aussi laisser l'autre suivre sa trajectoire. On retrouve ici une interrogation très ancienne. L'amour est-il une entrave ou une libération? Devons-nous vouloir garder l'autre ou devons-nous apprendre à l'aimer dans sa course, dans son nomadisme intérieur? La quatrième strophe introduit la dimension finale du temps. Quand tes yeux se fermeront et que le temps sera devenu la dernière demeure, ta dernière demeure, excusez-moi. Ici, la mort entre discrètement dans le paysage. Un jour, l'autre disparaîtra, comme tous les êtres. Le moment présent, si précieux, fait face à cette perspective. Lorsque le cycle sera accompli, lorsque la vie aura pris fin, que restera-t-il? Le poème propose alors une vision d'éternité amoureuse, une sorte d'attente infinie. Je serai déjà là, t'attendant depuis l'éternité d'un cœur amant et sincère. L'amour est posé comme une constante, quelque chose d'immuable dans le flux du temps, quelque chose qui transcende la mort elle-même. Cette image propose une réconciliation. Même si nous ne pouvons garder l'autre sur le plan matériel, l'amour vrai survit au changement, au départ, aux séparations, à la mort. C'est un amour mémoire, un amour essence. La dernière strophe revient au motif des fruits. Les vents contraires, les parfums, les paysages majestueux, les fleurs sauvages, les mers et montagnes admirées. Toutes ces expériences terrestres semblent, au bout du compte, devenir de vieux fruits trop mûrs. L'image est forte. Dans ce processus cosmique, tout s'use. Même les plus belles choses. Les plus sublimes panoramas. Le temps use tout et réduit même les merveilles à un stade de surmaturité, de déclin. Et pourtant, ce n'est pas tragique. Le poème suggère que de cette usure, de cette trop grande maturation, poussera l'arbre de notre destinée. Ce n'est donc pas une destruction vaine. Il y a une renaissance potentielle, comme si des graines germaient dans la pulpe trop mûre. Le fruit corrompu contient en lui les graines du futur. L'amour, même défait, même érodé, contient une graine de sens, quelque chose qui va plus loin que la simple consommation du moment. Qu'est-ce que cela signifie philosophiquement ? Cela signifie peut-être que rien n'est perdu. Que dans l'érosion, la détérioration, la fin des choses, se cache la germination d'autre chose. Un amour déçu, une relation qui s'étiole, peuvent néanmoins semer la possibilité d'un amour plus mûr, plus sage dans l'avenir. La nostalgie, la tristesse, la peur de perdre l'autre, tout cela est transformé en terreau, en humus fertile, où germera une compréhension plus profonde de la vie et de la destinée. Le poème joue avec une double tension. D'un côté, la peur du déclin, du trop mûr, de la corruption. De l'autre, la promesse qu'au-delà de cette apparente perte, quelque chose renaîtra. Il y a une dimension presque alchimique dans ce processus. Le fruit qui pourrit n'est pas seulement déchet, il est aussi préparation d'une nouvelle fertilité. L'amour, la vie, la mort, le temps sont mêlés dans un cycle sans fin. Si l'on prend un peu de hauteur et que l'on rapproche ce poème de tradition philosophique ou spirituelle, on peut penser à la notion de l'impermanence chère au bouddhisme, qui nous apprend que toutes choses naissent, vieillissent et meurent, et que ce cycle est porteur de renouveau. On peut penser à la mythologie grecque, à Perséphone, fille de Déméter. Mange quelques grains de grenade et scelle un destin cyclique entre vie et mort, entre floraison et décrépitude. Le fruit dans de nombreuses cultures est un symbole de vie, de fécondité, mais aussi de chute, de perte. Pensons aux fruits défendus dans la Bible, image d'une connaissance douloureuse. Ici, le fruit représente l'amour et ses transformations. Aimer, c'est cueillir un fruit. Au début, il est parfait, juteux, savoureux. Puis le temps passe et le fruit s'altère, perd de son éclat. Cette altération nous effraie. Nous aurions voulu figer l'instant, conserver l'autre éternellement, jeune, beau, proche, identique à nos souvenirs. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le fruit s'abîme. La relation évolue. Parfois, se sépare. Parfois, se transforme en autre chose. Pourtant, nous dit le poème, ce n'est pas négatif. C'est le cours naturel des choses, et de ce cours naît une destinée, un arbre futur, une autre forme de pérennité. Aimer quelqu'un qui court après le vent, c'est déjà aimer un être libre. C'est accepter d'être témoin de son chemin, même s'il nous échappe. Cela peut être une épreuve pour l'ego, car nous voulons souvent posséder, enfermer l'autre dans une histoire immobile. Or, l'amour véritable, celui qui survit au changement, au départ, à la mort, est un amour qui sait attendre, qui sait reconnaître l'altérité, qui n'a pas besoin de crier l'autre dans l'univers, car il sait déjà qu'il est là, inscrit quelque part dans l'éternité des sentiments. Ce poème est donc en un sens un apprentissage du lâcher-prise. Il vous invite, auditeurs et auditrices, à réfléchir à la manière dont vous vivez vos relations. Craignez-vous de perdre la fraîcheur de l'amour ? Tentez-vous de retenir l'autre, de cristalliser un moment parfait dans l'éternité ? Ou acceptez-vous de voir ce fruit mûrir, se transformer, jusqu'à devenir un humus fertile, d'où surgiront de nouveaux arbres, de nouveaux horizons. Je souhaiterais que, dans votre propre expérience, vous puissiez reconnaître ses peurs et ses désirs. Nous voulons tous un amour parfait, éternellement jeune. Mais peut-être en acceptant la maturité du fruit, en accueillant son inévitable déclin, nous ouvrons la porte à une plus grande sagesse, à une vision plus ample de notre place dans le monde, et à une forme d'amour moins fragile, plus profonde, qui sait traverser le temps et les saisons. L'autre aspect intéressant est la notion d'éternité. Le poème suggère qu'au terme du voyage, quand tout se sera éteint, un amour pur, sincère, attend au-delà des limites du temps. Est-ce une pensée spirituelle, une vision métaphysique ? Cela dépend de vos croyances. On peut y voir une image purement poétique, une métaphore pour exprimer la présence durable du souvenir ou un clin d'œil à l'idée que l'essence de l'amour est hors du temps. Peut-être que dans la mémoire cosmique, dans l'immensité de l'univers, un écho de cet amour persistera, comme une note de musique suspendue après que tous les instruments se sont tus. En somme, ce poème est un voyage entre l'instant et l'éternité, entre la crainte et la confiance, entre la saveur et la décomposition, entre la possession et la liberté, entre la temporalité humaine et une vision plus vaste du destin. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à faire vôtres ces images et à les laisser résonner dans votre esprit. Peut-être pourriez-vous réfléchir aux fruits de votre vie, à ces moments cueillis, aimés, savourés, puis laisser à leur propre évolution. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans la peur de trop aimer, dans la crainte que l'instant se ternisse, que les mots perdent leur éclat. Peut-être avez-vous déjà été ce vent insaisissable, cette personne qui ne peut être la moitié de quelqu'un d'autre, parce qu'elle appartient à l'horizon, à l'espace, au voyage. Laissez ces réflexions habiter votre quotidien, laissez l'idée faire son chemin. Le but n'est pas forcément de trouver une réponse définitive, là, maintenant, mais plutôt d'ouvrir un champ d'expérience et de questionnement. La poésie nous donne souvent plus de questions que de réponses, et c'est précisément ce qui la rend vivante. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi, encore une fois. J'espère que ce poème, fruit, et mes réflexions autour de lui vous auront permis de toucher du doigt quelque chose de plus vaste. La densité du temps, la texture changeante de l'amour, l'horizon infini de la liberté et de la mort, le cycle des choses qui mûrissent, déclinent et renaissent. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous continuerons ensemble ce cheminement poétique et philosophique. En attendant, prenez soin de vous. Et rappelez-vous que même les fruits trop mûrs peuvent être le terreau d'une destinée plus profonde. C'est dans la transformation que nous trouvons parfois le plus beau des trésors. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.